c'est intéressant cette histoire de 30 ans parce que c'est répondu en 30 ans. Et donc c'est peut-être temps de connaître la vérité. Et c'est vrai que c'est propre des génocides de ne pas disparaître. Et si on est tous là encore ce matin, c'est parce que c'est un génocide. On ne serait pas là pour parler du siège de Sarajevo. Il n'y a pas de colloque organisé 30 ans après le siège de Sarajevo parce que c'est pas un génocide. Alors que le Rwanda, ça ne s'arrête pas. Et même, je pense, à force de faire des anniversaires depuis 30 ans, tous les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans, les 25 ans, à chaque fois il y a plus d'émotions, à chaque fois on apprend plus de choses, à chaque fois il y a encore des gens qui en parlent, parce que c'est un génocide. Et merci à Patrick d'avoir fait assez court, parce que je le connais, en fait ce qu'il vient de faire pendant 10 minutes, il peut le faire pendant 1h30, 2h, 2h30. Si vous mettez une pièce, ça va dire.
Là, c'est pas une quatrième étape prescriptive, mais on a encore un peu d'espoir de voir les crapules qui ont commis ce mieux muni payer devant la justice, payer devant la justice, c'est ça que je ne comprends pas.
Non, mais ça, c'est un rêve.
C'est pas un rêve. Non, mais les nazis ont été jugés.
Oui, mais...
Et ils ont continué. On trouve un nazi aujourd'hui, on juge.
C'est là la parole.
Mais les complices des génocidaires rwandais, les complices français, ceux qui sont au sommet de l'État, qui étaient au sommet de l'État à cette époque, ils sont réellement complices. Tout ce que raconte M. Duclerc, c'est la complicité des responsables politiques et militaires français.
Et c'est ce dont on parle ce matin et dont on va parler sans doute
voilà.
Encore entre nous, si vous le voulez bien.
Après l'intervention de personne n'est pas un tribunal, sauf eux, en diffamation.
Ouais.
C'est le monde à l'envers.
Jean-François Dupatier va maintenant nous parler de l'affaire Bruguière, on peut le dire comme ça.
Merci d'abord à Frédéric Ancel et à son équipe de nous avoir permis de reparler de ce génocide. À la différence de mes trois voisins, je n'étais pas au Rwanda pendant le génocide, j'étais seulement à la frontière. Je vais vous parler de ce qui s'est passé après, en France, dans le cabinet d'un juge. Rwanda, vérité et mensonge. C'est le titre d'un article publié le 1er mars 2006 par Ronnie Broman sur le site de CRASH, acronyme du Centre de recherche sur l'action et les savoirs humanitaires de la Fondation Médecins sans frontières. Il s'ouvre ainsi. Parmi les nombreux ouvrages parus ces derniers temps sur la tragédie rwandaise, un témoignage et une enquête ressortent. Le premier a été écrit par un ex-officier de l'armée patriotique rwandaise, Abdul Ruzibiza. Le second par un journaliste enquêteur, Pierre Péan. Différentes l'une de l'autre, voire opposables dans leurs analyses du régime Habyarimana, ils se rejoignent sur un point. Contrairement à ce qui a été souvent affirmé, ce ne sont pas les extrémistes hutus, ni des mercenaires à la solde de la France qui ont assassiné Habyarimana. Le Falcon 50, qui transportait les chefs d'État rwandais et burundais le 6 avril 1994, a été abattu par un commando du FPR, le Front patriotique rwandais, sur ordre de Paul Kagame, devenu entre-temps président du Rwanda. Je cite toujours. Celui-ci, insiste Ruzibiza, savait quelles en seraient les conséquences pour les populations tutsis, puisque toutes les attaques du FPR contre les objectifs gouvernementaux avaient déclenché de sanglantes représailles à leur encontre depuis le début du conflit ouvert en 1990. Mais cela ne gênait pas Kagame, qui voyait l'occasion de se gagner la sympathie de l'opinion internationale et un chemin plus rapide vers le pouvoir, fermez les guillemets. Et Ronnie Broman enfonce le clou. Je cite. La lecture de Noir Fureur nous laisse penser que le régime Habyarimana était sur la défensive, réagissant parfois maladroitement, mais légitimement aux forcenés du FPR. Ronnie Broman ne souligne pas que le livre signé d'Abdul Ruzi Biza était encadré, entre guillemets, par une préface et une postface de ses amis Claudine Vidal et André Guichard-Voix, qui en apparaîtront plus tard les principaux auteurs. En 2021, le journaliste Patrick de Saint-Exupéry ne bénéficiera pas du même traitement par le bien nommé Crash pour son livre « La traversée, une odyssée au cœur de l'Afrique ». Il est qualifié de, entre guillemets, faussaire. Patrick de Saint-Exupéry a révolté Ronnie Broman, Claudine Vidal, Marc Le Pape, Philippe Hentjens et quelques autres, car il est, selon Crash, ouvrez les guillemets, tout à sa quête de démonstration visant à montrer qu'un second génocide n'existe pas. Fin de citation. Dans un article titré François Mitterrand et le génocide des Tutsis rwandais, Frédéric Ancel a parlé de, je cite, cette écœurante relativisation d'un génocide par le dévoiement de son sens qui a prévalu chez François Mitterrand, qui apparaît dès le sommet franco-africain de Biarritz en novembre 1994, soit à peine le cataclysme passé. Fin de citation. Et j'ai besoin d'en dire plus. Au sein de la galaxie négationniste, Ronnie Broman est resté l'un des plus persuasifs. Il a convaincu la chroniqueuse Natacha Polony que le génocide des Tutsis au Rwanda pouvait se résumer par cette formule lapidaire prononcée au micro de France Inter en 2018. Je cite, des salauds contre des salauds. L'acerbe Ronnie Broman n'était pas un précurseur, mais le suiviste d'une petite bande d'acharnés du négationnisme du génocide des Tutsis. En effet, dès le 29 juillet 1994, le journaliste Stephen Smith avait publié dans une double page de Libération, où il travaillait hélas à l'époque, un scoop désignant le Front patriotique rwandais comme auteur de l'attentat. Il prétendait écrire sur la foi, je cite, « une centaine de témoignages recueillis au Rwanda, dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est et en Europe », fermez les guillemets, et tout en reconnaissant l'absence de toute preuve matérielle, ce qui est un peu contradictoire avec la formule précédente, il avançait comme le plus plausible, ouvrez les guillemets, une monstrueuse présomption de point que le Front patriotique rwandais ait pu commettre l'acte entraînant le génocide de ses partisans. Stephen Smith glissait comme en incise un élément fondant une légende qui voudra faire du FPR l'auteur de l'attentat, je cite encore Stephen Smith. Le missile fatal, les missiles sur les deux ou trois qui ont été tirés depuis la colline de Masaka, a explosé comme il se doit à faible distance de sa cible. Fin de citation. Cette fausse information deviendra une des bases de l'enquête Bruguière et du narratif négationniste. Un an s'écoula avant que la prétendue piste de Masaka soit accréditée par un nouveau, entre guillemets, spécialiste, Philippe Hentjens, professeur de droit à l'Université d'Anvers. Il publie en effet en novembre 1995 un récit des trois jours qui ont fait basculer l'histoire à Kigali. Cet opuscule était un pot pourri de faits réels, certains rapportés pour la première fois, il est vrai, de supputations, de rumeurs et de règlements de compte avec le nouveau pouvoir rwandais qui refusait de renouveler un visa à l'auteur. Il dit « On sait d'où sont partis les missiles. Il s'agit des environs immédiats d'endroits appelés la ferme située sur la piste reliant la colline de Masaka à la route principale Kigali-Rwamagana, Kibungo, à 2 km à peine du camp militaire de Kanombe. » Par ses brillantes assertions, Philippe Rémetiens deviendra lui aussi l'un des inspirateurs de Jean-Louis Bruguière, en quelque sorte le bon Belge d'un juge qui manifestait pourtant vis-à-vis des Belges en général une belle arrogance. En apparence anecdotique, la piste de Massaka deviendra le socle du mensonge des auteurs de l'attentat et de leurs affiliés. Stephen Smith et Philippe Rémetiens, côté occidental, seront les fondateurs du storytelling négationniste, le premier vit en tandem avec Pierre Péan dans l'enquête Bruguière, qu'il alimentera lui aussi en ragots, fausses pistes et fausses informations, en synergie également avec la journaliste camerounaise Marie-Roger Biloa. Le 30 octobre 2000, sous le titre « Bruguière traque le président rwandais », les journalistes Pierre Péan, Christophe Nick et Xavier Muntz s'insurgeaient dans le « vrai papier journal » contre l'idée que le Falcon du président Habyarimana avait pu être abattu par des extrémistes de son camp. Ils écrivaient dans cet article, toujours consultable sur Internet, je cite, « Le juge Bruguière possède aujourd'hui de très nombreux éléments qui prouvent exactement le contraire. L'avion a été abattu par un commando Tutsi sur l'ordre de l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame, parfaitement conscient que cela entraînerait un massacre. » Bon, vous avez noté qu'on préfère vos massacres du côté de Pierre Péan, moi j'ai le signe. Le journaliste Stephen Smith a été auditionné plusieurs fois par le juge Bruguière. Ce dernier a consciencieusement fait annexer à la procédure ses soi-disant scoops, y compris celui titré « La terreur Tutsi ». À la veille de la 10e commémoration du génocide, Stephen Smith, qu'on appelle dans sa rédaction « Roboscoop », réussit un coup de maître. Le monde auquel il collabore désormais gratifie ses nouvelles révélations d'un gros titre en première page. Révélation sur l'attentat qui a déclenché le génocide rwandais. En page intérieure, deux articles déclinent le scoop. Je cite. La boîte noire du Falcon aurait été transférée il y a 10 ans au siège de l'ONU à New York. Selon le juge Bruguière, les Nations Unies font obstruction à l'enquête sur l'attentat du 6 avril 1994. Le journaliste se dit en mesure de résumer l'acte d'accusation. Après 6 années d'enquête, le juge d'instruction français Jean-Louis Bruguière désigne comme principal responsable de l'attentat contre l'avion le président du président Habyarimana, l'ancien chef rebelle et actuel chef de l'État rwandais, le général Paul Kagame. Dans le rapport final de la police judiciaire française, dont le monde a pu prendre connaissance, 10 autres dirigeants du Front patriotique rwandais sont mis en cause. On comprend bien qu'en 2004, pour Stephen Smith, la messe est dite, quelques années avant que le juge Bruguière produise son ordonnance. L'information extraordinaire du monde est reprise dans le monde entier, alors que le secrétariat général de l'ONU manifeste un certain embarras. En définitive, toutes ces révélations se révéleront fausses. Le Monde s'excusera dans un petit article et Stephen Smith ne tardera pas à quitter le prestigieux quotidien du soir. Un accident de parcours qui ne contrarie guère la puissante campagne négationniste menée par son groupe d'amis. En 2005, le polémiste Pierre Péan, qui bénéficiait alors d'une réputation de champion de l'investigation, publie le livre « Noir fureur, blanc menteur » dont Marcel Cabanda vous a parlé tout à l'heure. Ce livre se présente à la fois comme un résumé de l'enquête Bruguière et une sorte d'explication générale du génocide, de ses causes et de ses conséquences, en recourant à tous les principes du négationnisme. Cette considération sur de prétendues caractéristiques somatiques des Tutsis, vous le savez, renvoie au pire texte antisémite de l'avant-guerre. Il écrit par exemple « Dès leur plus jeune âge, les jeunes Tutsis sont initiés à la réserve, au mensonge, à la violence et à la médisance. C'est ce qui fait de cette race l'une des plus menteuses sous le soleil. » Je vais raccourcir un petit peu pour en dire. Un refrain déjà rodé par les nazis qui se prétendaient victimes d'une guerre juive, vous le savez. Avec le recul du temps, on est frappé de constater que Stephen Smith, Marie-Roger Biloa, Pierre Péan, Chris Novnik, Xavier Munz, Ronny Broman et Philippe Engtiens ont tenu la main de l'ordonnance du juge Bruguière de 2006, réécrivant l'histoire du Rwanda et l'attentat du 6 avril pour accuser les Tutsis de leur propre extermination. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle, excusez-moi, de cette histoire. Il se trouve que j'ai été interrogé par l'équipe Bruguière le mardi 29 janvier 2004. En matinée, je suis convoqué rue des Saussets à la division nationale antiterroriste, le service de police mis au service du juge Bruguière. Un officier de police, Pascal Bizet, vient me chercher à l'accueil. Dans son bureau, il me lit un document d'où il ressort qu'avec deux supposés Canadiens, j'animerai, moi Jean-François Dupacquier, une sorte de cellule de désinformation au profit du FPR. Quel rapport avec l'enquête sur l'attentat ? Le policier me dit que ce n'est pas mon problème. Je lui réponds que je ne connais pas ces deux supposés Canadiens, même pas leur nom, et que le document qu'il me lit, mais qu'il ne me montre pas, ne peut être qu'un faux, assez grossier du reste. Le policier tape à la machine ma réponse, n'en demande rien de plus, il semble pressé et me raccompagne. Un peu interloqué par cette audition à la va-vite, je lui demande dans le couloir, « Moi, vous avez un rendez-vous important ?» Le policier, « Oui, je vais voir M. Onana, qui nous renseigne pour l'enquête. » Moi, « Je crois que M. Onana n'a jamais mis les pieds au Rwanda. Je doute qu'il vous soit utile. Vous devriez plutôt interroger M. Jean-Pierre Chrétien, qui est un grand spécialiste de la région des Grands Lacs. » Le policier, « On nous a mis en garde contre M. Chrétien. Nos informateurs, ce sont Charles Onana, André Guichaoua et Claudine Vidal. » Cette anecdote figure dans mon livre « Politique militaire mercenaire » paru il y a exactement 10 ans et jamais personne n'a infirmé mes dires. Onana faisait, semble-t-il, partie d'un petit monde interlope qui grenouillait autour de la DNAT, la Division Nationale Antiterroriste, et du juge Bruguière, mais n'apparaissait pas dans les, dans les pièces de procédure. Tout en jouant du rôle de rabatteur de témoins pour documenter la malignité des Tutsis et la responsabilité du FPR dans l'attentat. Le 4 avril 2003, lorsque le colonel Marshall participe à un colloque négationniste à Paris, c'est Charles Onana qui le présente à l'Assemblée. Et l'officier possible de police Pascal Bizet, mon interrogateur, qui se trouve dans la salle et qui en rencontre dans la procédure, Bruguière. Un étrange mélange des genres parmi bien d'autres, encore bien pire. Ajoutons donc André Guichaoua, Colin Vidal, Charles Onana, Stephen Smith, Marie-Roger Biloa, Pierre Péan, Christophe Nick, Xavier Munz, Ronny Broman, Philippe Prentiens et divers personnages secondaires à la liste des imposteurs, mythomanes et manipulateurs. Nous étions au cœur d'années de plomb, où les négationnistes tiraient sans vergogne les ficelles d'un pouvoir d'État et de la plupart des médias, un pouvoir symbolisé par le célèbre juge antiterroriste. Résultat de ces manœuvres et de bien d'autres, Le 16 novembre 2006, Jean-Louis Bruguière émettait une ordonnance ayant pour objet la délivrance de mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de 9 personnalités rwandaises, mais estimant que Paul Kagame, bénéficiant du privilège de chef d'État, pourrait en revanche faire l'objet de poursuites du tribunal pénal international pour le Rwanda. Le juge français décidait d'informer le secrétaire général des Nations Unies des éléments de son enquête afin qu'il s'agisse le procureur de cette juridiction. Comme le résumera la chercheuse Raphaël Maison, l'ordonnance du juge Bruguière constitue un objet négationniste exceptionnel. Elle émane d'un organe étatique. En ce sens, on peut bien parler d'un négationnisme d'État, car il n'engage pas en fait l'ensemble de l'appareil d'État français, mais il est bien pour l'extérieur un fait de l'État. Je cite encore Raphaël Maison, un fait particulièrement offensant dans le cadre des relations internationales qui justifie la réaction immédiate du Rwanda décidant de la rupture des relations diplomatiques. En 1998, la mission d'information de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées et de la Commission des Affaires étrangères sur les opérations militaires menées par la France, d'autres pays et l'ONU au Rwanda entre 1986 et 1994, je reprends ma respiration à la fin de l'intitulé, dite mission Kiles, avait abouti à des conclusions timorées, édulcorées, aseptisées, visant à étouffer les critiques sur le rôle de la France, c'est-à-dire de l'Élysée au Rwanda. L'enquête Bruguière engageait dès lors une vaste entreprise de falsification de la vérité. Il faudra attendre 10 ans en 2008 pour que 2 avocats, maître Lef Forster et maître Bernard Minguin ici présents, aient enfin accès au dossier d'instruction et en démontent patiemment les impostures. La liste des abus judiciaires commis par le juge Bruguière, son équipe et ses hommes de l'ombre est telle que le temps limité de cet exposé ne nous permet pas de les énumérer. En décembre 2018, 20 ans après l'ouverture de l'instruction confiée à Jean-Louis Bruguière, les juges qui lui ont succédé ordonnaient un non-lieu dans l'enquête sur l'attentat qui déclencha le génocide des Tutsis. C'était un événement considérable. On voit soudain abattu, en plein vol, cet étrange oiseau appelé négationnisme d'État français. Il n'est pas indifférent de noter que, exactement un an plus tard, est instituée la commission Duclert. Je n'ai pas parlé ici du long empêchement de juger les suspects de génocide réfugiés en France. C'est un autre volet du négationnisme d'État que deux personnes admirables, Daphosa et Alain Gauthier, sont mieux fondées que personne à évoquer. Le livre « Le cri du Falcon » de Bernard Minguin, qui est, par une sorte de petit miracle, vendu à partir d'aujourd'hui en France et ici même, dans la salle d'à côté, expose les rouages de ce négationnisme d'État, de ce crime judiciaire que Jean-Louis Bruguière incarne et dont il ne rendra visiblement jamais compte, dont il ne s'excusera sans doute jamais. Je considère ce livre, Le cri du Falcon, aussi important que le rapport Duclert et je vous propose surtout d'applaudir l'auteur qui est dans la salle. Je vous remercie.
Je vous propose maintenant de répondre à vos questions, s'il y en a. Et bien, il y en a pas. Oui.
Monsieur Royal.
Mademoiselle Royal.